Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast de France Bleu Paris consacré à l'actualité du meilleur club français, bien évidemment, le seul club français qui joue avec des flocages coréens, ces matchs de Ligue 1. Donc, Anéong, il paraît que ça se dit comme ça, à toutes et à tous, hein, puisque ça veut dire salut en coréen. On ne sait jamais, peut-être que La Tribune peut aller chercher le marché coréen aussi. Peut-être qu'on va attirer du monde sur notre chaîne YouTube. Tiens d'ailleurs, petit message, hein, avant de devenir des rockstars du côté de la Corée. Je rappelle à nos amis qui nous suivent désormais sur YouTube, des pouces, un maximum de pouces, de commentaires aussi. Et tiens, même si tu écoutes ça en podcast, eh ben, tu mets aussi des petites étoiles, des likes et des commentaires pour nous dire si cette émission vous plaît ou non. En tout cas, chers amis coréens, chers amis français, chers amis des États-Unis, de partout dans le monde finalement, bienvenue dans cette tribune 100% PSG. Il est temps de vous présenter le menu.
100% PSG, la tribune.
Au sommaire de cette tribune, le troisième match nul consécutif du PSG en Ligue 1. Reims est venu prendre son petit point au Parc des Princes, 2-2. Mais ça t'aime bien, comme derrière personne ne suit le rythme, eh bien le PSG est toujours leader, solide, avec 10 points d'avance sur Brest, son dauphin. On va faire un gros j'aime pas sur ce match face à Reims. On va bien sûr se poser quelques questions dans cette émission. Est-ce que trop de rotation tue la rotation? Oui, on va la poser cette question parce que c'est vrai que Luis Enrique n'arrête pas de faire tourner son effectif. On se demandera si Warren Zaïre-Emery peut être la nouvelle figure de proue du projet du PSG. Est-ce que c'est vraiment lui ou il en faut une autre figure de proue? On en parlera avec les débatteurs. Peut-on croire à un PSG sans grande attente en Ligue des Champions cette saison? C'est pas nous qui le disons, c'est le président qui arrête pas de faire passer des messages, encore un hier, dans un média français. Et enfin, êtes-vous plutôt Châteaudun ou Montigny-le-Bretonneux? Ça, c'est à vous de choisir, bien évidemment, pour le stade, pour le Parc des Princes, vous avez compris. On va parler du PSG qui veut déménager. On en parle à la fin de ce podcast. Présentation de l'équipe, c'est tout de suite et c'est maintenant.
100% PSG, la tribune.
Qui compose l'équipe du jour? Ils sont trois, deux avec moi en studio et le troisième en ligne à 800 km d'ici. On va le saluer tout de suite. C'est Mathieu Forni ce matin sur Foot. Salut Mathieu.
Salut.
Salut, bienvenue à toi. Vous l'avez retrouvé, vous allez la retrouver toute la semaine sur France Bleu Paris de 18h à 19h dans 100% PSG Le Mag. C'est Pia Clément qui est avec nous. Salut Pia.
Salut tout le monde.
Bienvenue ma Pia. Et puis lui, il est plutôt du matin. C'est plutôt le gars du matin. C'est Romain Bédouc, toujours sur France Bleu Paris, homme du Club des 5 aussi sur YouTube. Et on le retrouve tous les matins sur le France Bleu Paris avec son billet 100% PSG. C'est Romain Bédouc. Salut Romain.
Salut à tous.
Bienvenue les amis. Depuis tout à l'heure, je vous ai fait des trucs qui vont pas du tout, parce que j'ai une espèce de son bizarroïde dans le casque, je vous assure, très particulier. Les amis, on va parler du match du Paris Saint-Germain, bien évidemment, le 2-2 face à Reims, un dimanche à 13h pour le marché asiatique, que l'on salue, bien évidemment. Alors, petit CSC d'Abdelhamid, plus un but de Ramos en première mi-temps, et deux buts contre le Paris Saint-Germain, toujours en première mi-temps, deux belles dingueries d'Hakimi et de Ougarté pour amener le but des Champenois, ce qui nous a donné ce 2-2, mais comme je l'ai dit dans les titres, ça ne bouge pas au classement puisque personne derrière ne s'active. Enfin si, il y en a qui s'activent mais qui ont pas mal de points de retard. Je mets quand même ma petite pièce sur Lens qui va terminer avec peut-être Monaco deuxième et troisième, et Brest à la quatrième place, c'est parfait. Brest quatrième, très bien, pas de Ligue des Champions pour les Bretons, faut pas non plus déconner trop loin.
Allez. Ça va pas, laisse-les tranquilles les Brestois.
Non, ça va pas aller en Ligue des Champions.
Bah si.
Ça peut pas aller en Ligue des Champions.
Ça va y aller, t'inquiète.
Eh ben non, surtout pas.
Attends,
surtout pas.
Dans un combat avec le vent dans le dos. Brest,
mais non, surtout pas. Mais ils ont pas de stade, ils ont pas l'effectif, ils vont exploser en plein vol. C'est une équipe qui a un 17e budget de Ligue 1.
Jérôme, ils ont pas le stade. Montilivi, c'est 12 000 places. Et ben on sera en Ligue des Champions l'année prochaine.
Oui, mais ça, c'est entraîné par Eric Roy. Arrêtez. On n'est pas là pour parler de Brest. Madame Clément, arrêtez. Maintenant, ça suffit. J'ai mis ma mine à Brest. J'ai le droit. J'ai ce que je veux dans cette émission. Clément. Tiens, d'ailleurs, je voulais te remercier, Romain, d'avoir tenu la tribune correctement la semaine dernière. Vous savez, une tribune tenue par Romain Bédoux, c'est un petit peu comme faire un match contre l'équipe du Japon. À la fin, les supporters nettoient vachement bien la tribune. Tu sais, ils passent derrière, il n'y a pas un papier qui dépasse. Merci, mon petit loup, d'avoir fait ça. Les amis, on attaque avec le j'aime, j'aime pas. Et on va attaquer avec notre Mathieu qui est avec nous. Un j'aime ou un j'aime pas? On commence par quoi? Ton j'aime, allez.
Ah, le j'aime, hein, je voulais jeter chaud sur le j'aime pas direct.
Bah vas-y, si tu veux le j'aime pas, allez.
Ça va t'étonner, hein, c'est Carlos Soler. Je peux plus me le voir. Enfin, franchement, franchement, je comprends toujours pas comment il arrive à gratter des minutes de jeu dans ce club depuis un an et demi. À chaque fois qu'il joue, il propose rien. Il propose tellement rien qu'il est jamais décoiffé. Franchement, il sert à rien, il est inutile, c'est un mystère ambulant. Et là, après Monaco, il a encore joué, débuté, il a mis du temps à sortir. Enfin, je trouve que c'est vraiment un joueur. Il me fait même pas de peine, en fait, parce que je le trouve vraiment insipide, nul, inutile. Faut vraiment qu'on arrête avec ce monsieur, quoi. C'est pas possible.
C'est le joueur de banc, Mathieu. Il te sert, il fait pas de bruit, il met un peu de pento et il fait du
mal. Il te sert à rien. Il t'apporte rien. Tu mettrais un petit jeune du centre, ça serait pareil en fait. Hein. Et au moins, tu ferais progresser un jeune. Là, tu sais qu'il y a un mec qui va jamais progresser, qu'il n'est pas fait pour le PSG. Après, oui, on l'a un peu mis arrière droit, relayeur, sur un côté et tout. Mais en fait, il y a pas un bon match de lui. L'année dernière, de temps en temps, il mettait des petites stats. Là, il fait rien. Il gagne pas un duel. T'as l'impression que la Ligue 1, n'importe quel mec, c'est trop compliqué pour lui. Ça va trop vite. Les mecs sont trop costauds. Il mange pas assez. Alors peut-être il a une hygiène de vie exceptionnelle, mais qu'est-ce qu'il est nul au foot.
En tout cas, sachez-le, hein, je vous rappelle juste un truc. Non, c'est juste pour les notes, parce que j'ai les copains de l'équipe. Donc les copains de l'équipe, ils ont mis 4. Et le Parisien, c'est 4,5. Voilà pour Soler, qui effectivement a été quand même... Je donnerai pas le nom d'un copain du Parisien de l'équipe du jour là qui devait peut-être venir. On a discuté puis il m'a dit je suis désolé je peux pas venir et qui m'a dit surtout rhabillez bien Soler parce que franchement j'en peux plus de lui. Pia, c'est plus possible ce genre de joueur.
En fait le truc c'est que moi je me demande vraiment si c'est pas à lui que s'adresse le héros des putas de Luis Enrique parce qu'en fait il rate une occasion alors qu'il est en face du but et sur à la seconde d'après on voit Enrique qui met un coup de poing dans la tablette l'écran. Vidéo. Mmh. En criant Hiro de puta. Et honnêtement.
Alors qu'on a le droit maintenant de dire Hiro de puta tranquillement.
Bah, ça me gêne. Non, mais
c'est en espagnol.
Alors,
ça.
Je le dis, je salue.
Sur bannir la chaîne YouTube bêtement.
Je vous le dis. Je salue tous les gens qui nous écoutent. Je sais qu'on nous écoute en Normandie et on m'a demandé dans cette émission de vraiment mettre en place la boîte à sous. On me l'a demandé et c'est une amie qui vit en Normandie qui m'a dit Bruno, là, ça suffit.
Moi, je te dis,
mettez la boîte à sous et comme ça, vous donnez l'argent à la fin à une association et vous allez pouvoir donner pas mal d'argent.
Moi
donc ça te fait déjà 1 euro pour toi.
Moi je préfère payer. Moi je préfère payer plutôt que d'arrêter de dire des gros mots.
On va se faire quand même bannir de la chaîne YouTube, donc allons-y doucement. Donc,
il rit des poutous.
En tout cas, un gros poutou. En tout cas, pour terminer sur Carlos Soler, Romain, c'est vrai que l'année dernière encore, bah, ça a marqué quelques buts, ça a fini à 6 ou 8 buts dans une saison. Là, pour le coup, il n'est que bouche-trou et on le sent souvent perdu. Hier, c'était quand même assez flagrant.
Ouais, c'est dur. Non, en vrai, c'est dur, mais...
Mais il doit bien y avoir un truc. Il doit bien y avoir un truc à l'entraînement. Il doit être bon.
C'est le style de joueur polyvalent, pratique. Tu peux le mettre partout. Voilà. Alors, il ne va jamais être bon à n'importe quel truc, mais au moins il te comble les brèches.
C'est du mastic.
Et à un niveau supérieur, c'était ce qui était Luis Enrique quand il était joueur. C'est-à-dire que Luis Enrique, quand il était joueur, il a dit, hein, j'ai joué, il y a que deux postes dans ma carrière où j'ai pas joué, c'est défenseur central et gardien de but. Sinon, il a joué tous les postes, au milieu de terrain, devant, il a fini attaquant et il a fait sa carrière comme ça. Il est devenu capitaine du Barça comme ça parce que il a joué pendant de nombreuses années là-bas.
Il était peut-être un peu meilleur du coup, non ?
Oui, non, c'est pour ça que j'ai dit un niveau supérieur, mais dans le style, c'était ça. Donc peut-être qu'il se retrouve en lui, peut-être que peut-être qu'il se dit bon bah pour certaines configurations de match, ce profil-là peut m'aider. Mais à part la polyvalence, je vois pas pourquoi, parce que c'est vrai que s'il est pas là, c'est pareil, Carlos Soler.
Mathieu, juste pour terminer sur Carlos Soler, parce que j'ai vraiment envie qu'on le rhabille correctement pour cette rencontre. Ce qui est assez fou, c'est que ce joueur-là a peut-être une chance de jouer le quart de finale aller de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, puisque
on va y venir, ça.
À droite, il va falloir peut-être combler un manque.
Bah franchement, tu sais quoi, je préfère partir à la guerre avec Nordi, qui a pas de pied, mais au moins il met de l'impact, il gagne des duels. Franchement, Carlos Soler, c'est tu peux pas un niveau d'un. Déjà, l'intensité de la Ligue 1, ça va beaucoup trop vite pour lui. Alors l'intensité de la Ligue des Champions, en plus, il suffit que tu prennes un. Franchement, si tu prends City, tu prends le Bayern, même tu prends l'Inter, mais franchement, il va se faire assassiner, le pauvre. C'est déjà suffisamment dur de le voir jouer contre. De temps en temps en Ligue 1, alors en Ligue des Champions, j'ai pas envie de voir ça.
On aura le temps d'y venir, mais si Nuno Mendes revient bien, comme il mettait un arrière latéral offensif avec Hakimi et un plus défensif avec Lucas, peut-être que tu vas avoir une inversion de côté avec Nuno Mendes à gauche qui sera là et un arrière droit plus défensif. Et donc là, Mukiele peut peut-être aider.
On verra cela.
Il a même mis Ugarte, ouais. Il a même Ugarte en match de préparation arrière droit.
Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai que c'est bon de s'en rappeler. Bon, après, Manu Ugarte aussi, son cousin est vachement sympa, mais beaucoup moins bon de ce qu'on a vu en début de saison avec le Paris Saint-Germain. Pia, avec toi, ton j'aime ou un j'aime pas? Tu choisis, après on fera chacun son tour. Vous avez le droit à un j'aime et un j'aime pas.
De toute façon, moi, mon j'aime pas, c'est pas un vrai j'aime pas, mais je me doutais que les garçons allaient prendre Solaire et je vais laisser le suspense pour le deuxième. Mais du coup, c'était juste un petit j'aime pas léger pour le petit trou d'air de Barcola qui est quand même moins percutant, moins effarouchant depuis quelques matchs, depuis 5 matchs exactement, parce qu'il a plus marqué depuis 5 matchs, à part le match à Monaco où il avait été bon. Je trouve qu'il accuse un peu le coup. Et sur le match d'hier, en fait, Warren joue à un poste de milieu quand même quasiment ailier gauche. Hein. Il est vraiment très très offensif et vraiment très à gauche. Et en fait, Barcola, il est un peu sevré de ballon. Et je pense que typiquement, c'est le genre de joueur. Il est tellement jeune, il lui faudrait quand même un peu de stabilité autour de lui. Et j'ai l'impression que là, au bout d'un moment, il ne sait plus trop où il habite, quoi.
Mathieu, est-ce qu'on pourrait dire que Barcola arrive à un premier palier dans sa progression au Paris Saint-Germain?
Bon, il a un trou d'air normal. Il a quand même beaucoup joué en 2024. Il a en quelque sorte franchi un cap. Tu vois, il était presque devenu titulaire indiscutable. Là, apparemment, on parle de lui. Il devrait faire son arrivée dans le groupe France. Enfin, c'est quand même des étapes qu'il franchit. Alors qu'il y a un an, on parlait de Lyon et envisageait de le prêter en Suisse, quoi. Donc, la montée en puissance en un an, elle est quand même assez grande avec un transfert à 50 millions d'euros, etc. C'est juste qu'il faut qu'il encaisse tout ça. Et puis hier, à Warren, il a eu un trou d'air aussi à la sortie de sa blessure. De toute façon, moi, je connais pas de joueurs qui, à part les mutants, qui font des saisons sans trou. Là, il est un peu moins bien. À la Sociedad, ce qui est bien, c'est qu'on n'en fait pas tout un drame, quoi. À la Sociedad, il est sorti à la mi-temps. C'est passé inaperçu et c'était presque logique parce qu'il faisait pas un bon match. Donc voilà, ça fait partie du processus d'apprentissage. Et puis, il a un coach qu'il aime beaucoup, qu'il fait progresser, qui lui donne du temps de jeu. Lui, il a l'air de vite se remettre en cause. Donc voilà, un bon match, ça peut arriver contre Nice, à Montpellier. Puis voilà, peut-être que l'arrivée en équipe de France va lui faire du bien et qu'il va revenir aussi requinqué pour la suite. Hein, mais je ne suis pas spécialement inquiet, quoi.
Ben on croise les doigts, en tout cas, effectivement. C'est la grosse tendance. Hein, c'est TF1 Téléfoot qui, hier, a sorti cette info que Bradley Barcola pourrait être dans la liste de Didier Deschamps. Elle sera présentée ce jeudi, 14 mars, à
14h. Il y a beaucoup
de blessés. Hein. Oui, il y a Coman et
c'est pour remplacer Coman, normalement. C'est pour ça.
Il y a Nkunku aussi qui revient pas. Diaby qui est devenu remplaçant avec Aston Villa. Donc, il y a des places.
Ce serait une sacrée, une belle aventure, en tout cas pour lui, pour Bradley Barcola. Et on lui souhaite, bien évidemment, il y en a un qui va commencer à râler, c'est Thierry Henry avec les Espoirs, qui se fait dépoiler par l'ami Didier Deschamps. Après Warren Zaïre-Emery, ce serait donc peut-être Bradley Barcola. Ton j'aime pas, tiens, avec mon Romain Bédouc.
J'aime pas ce qu'on voit d'Achraf Hakimi. J'aime pas, je le disais ce matin dans mon billet, j'ai l'impression qu'il est parvenu de sa Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui peut se comprendre, parce que
on rappelle les conséquences.
Faut pas sous-estimer les traumas nationaux qui peuvent être provoqués par ces compétitions-là. Et le Maroc était ultra favori. Le Maroc s'est fait sortir en huitième de finale par l'Afrique du Sud. C'était une grosse surprise avec Hakimi qui rate le penalty du 1-1 dans les 10 dernières minutes. Donc forcément, te relever de ça et devoir repartir sur ta saison, tu rentres et après, 3 jours plus tard, tu dois être sur le terrain et puis après, tu dois te concentrer sur la Ligue des Champions, etc. C'est pas facile. Donc, je peux le concevoir. Maintenant, le problème, c'est le PSG a besoin d'Achraf Hakimi. C'est le seul poste, on parlait tout à l'heure, on faisait les vannes sur Solaire, Ugarte, etc., Mukiele, c'est le seul poste qui n'est vraiment pas doublé. En tout cas, dans ce que veut mettre en place Luis Enrique. Donc, il faut vraiment essayer de tout faire en sorte pour qu'il se remette la tête à l'endroit et qu'il arrive à passer ce traumatisme-là qui se ressent maintenant sur le terrain. Parce que sur le terrain, il est pas bon, il fait des erreurs. Enfin, la perte de balle qu'il fait hier, c'est.
Sur Diakité, juste pour ceux qui ont peut-être pas vu le match, mais on rappelle juste une chose, il est à 5 mètres du but. Navas lui dit, vas-y, prends le ballon et dégage-moi ça. Et lui, repique à l'intérieur. Ouais. Il repique à l'intérieur pour à 4-5 mètres du but et il se fait piquer le ballon et ça fait une action de but et ça fait but.
Bah ouais, mais il y a beaucoup de, en fait, il y a beaucoup de suffisance, je trouve, dans son geste. Il y a énormément de suffisance. Et puis même dans ses réactions, il râle beaucoup. Il a essayé un peu par la suite de masquer ça et sur la suite de la rencontre, il est un peu mieux, mais c'est vraiment pour essayer de trouver.
Il est quand même carrément mieux. Oui, c'est quand même vraiment repris après.
Ouais, mais.
Mais bon, il a eu besoin d'un but.
En fait, c'est pas le. Même en se reprenant de cette manière-là, c'est pas le Hakimi qu'on attend, quoi. C'est pas. Bon, il est très très loin de ses standards et on a besoin d'avoir un Hakimi dans ses standards.
D'ailleurs, je le souligne parce que c'est pas la première dinguerie qu'il nous fait, parce que l'autre dinguerie à la Real Sociedad d'aller prendre un carton jaune complètement pourri à un coin de corner et qu'il le prive. C'est vrai que là, on sent qu'il est plus complètement connecté à ce que lui demandait Luis Enrique, alors que c'était le joueur majeur de la première partie de saison, Pierre.
Ouais, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que je trouve que il a l'air moins connecté aussi au groupe, en fait. J'ai l'impression qu'il est là, je sais pas, je sens comme un truc un peu cassé. Est-ce que peut-être il a été presque trop proche de Kylian Mbappé, du coup ça l'a un peu coupé des autres, j'en sais rien, mais effectivement dans son langage corporel on sent un joueur qui est pas complètement mobilisé contrairement à ce que dit tout le temps Luis Enrique sur le fait que seuls les joueurs qui sont à 100% jouent, c'est vrai que sur ce cas du latéral droit on n'a pas trop le choix, donc effectivement il faudrait que Luis Enrique arrive à trouver les bons fils pour le remobiliser. Mais après, à sa décharge, au début de la saison on était tous en kiff total devant ces combinaisons avec Dembélé. Ils ont un peu moins joué ensemble aussi ces derniers temps et du coup je trouve que c'est un des trucs frustrants dans le turnover dont on reparlera après, c'est que parfois on aimerait revoir certaines doublettes qu'on a aimées et on aimerait les voir plus souvent, et moi je suis un peu en manque de ça en ce moment.
Romain, pour terminer, apprenez à voir Mathieu pour son j'aime.
Je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais je peux pas m'empêcher de ne pas y penser. Hakimi est formé au Real Madrid.
Bien sûr.
Hakimi est formé au Real Madrid. Le poste d'arrière-droit au Real Madrid, c'est le seul poste défaillant. Ils ont encore Carvajal, son fantôme, et Lucas Vázquez. Il y a une partie de moi qui ne peut pas m'empêcher de penser, qui pense peut-être à ça. Voilà. De par la proximité avec Kylian, j'y pense. J'espère que ce n'est pas le cas. Enfin, en tout cas, j'espère que ça n'influe pas sur ses performances terrain. Pardon.
Il est en train d'en casser le micro, pour ceux qui n'ont pas la vidéo.
Mais j'espère que ce n'est pas ça. Je peux comprendre que ça lui trotte, mais si ça influe sur ses performances sportives, ça devient très problématique.
C'est marrant parce que je pense à peu près la même chose et je pense qu'effectivement, il a très envie de...
On est obligé de le dire, il n'y a pas de preuve, est obligé de...
Mais on a ce ressenti quand même, on sent qu'il y a un truc qui n'est plus là, quoi.
Matt, tu as le même ressenti pour Hakimi, juste très rapidement, mais après on fera ton j'aime.
Il y a surtout une situation contractuelle qui fait que cet été, il faudra se poser la question, parce que si tu n'arrives pas à le prolonger, peut-être qu'il faudra le vendre cet été. Hein.
C'est vrai.
Donc, j'ai bien aimé certaines parties de sa première saison, autant depuis qu'il est là, il est arrivé en 2021, je crois. C'est quand même un joueur qui a un énorme salaire, sur lequel on a fait un immense investissement. Est-ce que bientôt, à la fin de sa troisième saison complète, on peut dire que il a répondu aux attentes d'un joueur de 60 millions d'euros? Moi, je ne suis pas sûr. Voilà, tu vois. Et est-ce que tu ne peux pas trouver un joueur beaucoup moins cher qui réponde à ce que veut le coach? Je pense que oui. Donc, un départ cet été, pour moi, ce ne serait pas une immense perte au fond, quoi.
Contrat jusqu'en 2026 pour Achraf Hakimi, jusqu'en juin 2026, juste pour être précis.
Donc, une vente chère, c'est cet été.
Oui, c'est cet été. Mais moi, tu sais, pour histoire de faire passer la pilule à... de départ de Kylian, si tu le revends 100 millions à Achraf Hakimi, attends, le meilleur latéral du monde, tu vois, hop là,
combien,
tu passes.
Combien tu veux le vendre? 100 millions.
Ouais, mais tu sais, je m'occupe de la boutique du.
Comme ça, on peut acheter Jonathan David derrière.
Ouais, c'est
100
ça,
millions.
Tout à fait.
On vend Hakimi 100 millions et Ethan Mbappé 150.
Mais
et puis
oui,
on dit
mais
que...
c'est pour récupérer l'argent. Ben voilà, c'est pourquoi pour récupérer pas. L'argent auprès du Real Madrid. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Même 120 millions pour Achraf Hakimi. Mathieu, avec toi, ton j'aime.
Eh ben, j'aime bien le coach, moi, hein, franchement.
C'est vrai?
Ouais. Bah, j'aime bien déjà sa manière qu'il a d'envoyer chier les gens de notre profession. Parce que ça fait un mois, on a franchement toutes les conférences de presse, toutes les interviews d'après match dans match, elles tournent toutes autour de Kylian Mbappé. Au bout d'un moment, franchement, c'est fatigant. Même nous, en tant que suiveurs, franchement, c'est bon, il part, on a compris. Il a été clair au possible. C'est les matchs de Ligue 1, en gros, vu qu'on a 10 points d'avance, et ben on va essayer de faire sans lui, parce qu'on prépare l'avenir. Et les matchs de Ligue des Champions, bah oui, il n'est pas bête, le coach, c'est ton meilleur joueur. Comme à Sociedad, et ben il va jouer. Et à chaque fois, on en fait un sketch de tout. On lui pose toujours les mêmes questions et tout. Et lui, bah lui, ça doit le gonfler. Déjà, il n'est pas très friand de la presse. Et puis bah là, je trouve qu'il commence un peu à s'amuser de cette bêtise. Hein. Quand tu vois que Tchouaméni, le pauvre, il a fait 3 minutes après Real Leipzig sur Mbappé avec une forme de second degré qui est assez notable, alors que d'autres auraient pu franchement envie d'en plafonner le journaliste. Enfin, on devient vraiment bête avec ce truc Mbappé. Et lui, je trouve qu'il garde une ligne de conduite qui est la même. Donc ça, c'est fort. Et il commence à se détacher. Et puis j'aime bien la manière qu'il a de gérer le groupe, même si ça fait beaucoup de turnover, mais au final, tu arrives là à un quart de finale de Coupe de France, tu viens de passer un huitième de finale de C1, tu n'as quasiment pas de blessés, tu n'as pas de joueurs qui sont en méforme physique. À la Sociedad, on était bien, donc je trouve qu'il y a une gestion du groupe, de l'équipe, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun joueur qui a lâché. Et ça, c'est pas facile quand tu connais le club.
On va en reparler de Luis Enrique sur la rotation. Est-ce que trop de rotation tue la rotation? C'est l'une des questions où l'on va débattre, bien évidemment, mais sur la Pat Enrique sur ce côté, en termes de coach, des prises de parole et autres. Romain, t'as pas l'air d'être convaincu.
Ah si, non, je suis convaincu.
Tu viens de dire
Non, si, je suis convaincu. Après, sur les conférences de presse, c'est très bizarre parce que il y a des moments où il va avoir des réponses qui sont hyper intéressantes. On lui pose la question sur la tactique de la Real Sociedad où il parle du placement de Dembélé, la manière dont il a voulu le mettre pour apporter une supériorité au milieu de terrain. C'est hyper intéressant. Puis à côté de ça, il va faire une réponse où il se fout de toi. Où il va, s'il fait beau, peut-être que je mettrai Mbappé. S'il pleut, non. Et puis à côté de ça, il y a des questions où il veut pas répondre. Donc il y a vraiment à boire et à manger dans ces conférences de presse. Et c'est très difficile d'analyser dans la globalité ces conférences de presse-là. Et de dire, je retiens ça, il ne faut pas retenir que le foutage de gueule, il ne faut pas retenir seulement les analyses hyper pertinentes, parce qu'il n'y a pas que ça non plus. Donc c'est un personnage, et c'était déjà le cas avant. Les journalistes français ne sont pas forcément les seuls à blâmer, puisque en Espagne c'était la même chose. Mais c'est, voilà, il est comme ça de toute façon.
Est-ce que c'est le genre de personnage qu'il fallait au Paris Saint-Germain, Pia, pour tenir un peu l'espace médiatique et justement tenir la presse et protéger son groupe?
Alors, moi, je vais te dire un truc. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu la sensation que j'avais, moi, en tant que petite supportrice, donné les clés au coach et que j'avais juste envie de le laisser faire sa magie. J'ai juste... En fait, il y a même parfois des questions qu'on me pose, même dans les médias, des trucs comme ça. J'ai même pas envie d'avoir un avis parce que je sais qu'il est en train de faire les choses en cohérence avec des choses qui sont réfléchies. Il y a des moments où on voit que, il n'est pas focalisé sur le prochain match, contrairement à ce que tous les coachs disent, mais il pense au coup d'après et au coup d'encore après. Et honnêtement, j'ai tellement envie de lui faire confiance et je sens qu'on peut le faire. Et ma seule inquiétude depuis le début de la saison, c'est que je me disais, vu comment il s'emmanche avec la presse à chaque conférence de presse, je me disais, j'ai peur que ça amène des situations trop tendues et que du coup, il éclate en vol. Et en fait, justement, par rapport à ce que vous disiez, je trouve qu'il s'est un petit peu... Il est plus dans l'humour et moins dans l'énervement qu'il y a quelques semaines. Et je trouve qu'il a pris un petit virage, alors qu'il n'est pas plus sympa avec la presse, on va dire, mais qui apporte un peu moins de tension. Et au final... Il désamorce mieux. Lui-même, il a l'air moins stressé, enfin moins sur la défensive. Et donc, au final, même ça, le fait que les gros titres, ce soit s'il fait beau, il joue, s'il fait pas beau, il joue pas. Enfin, peu importe, on s'en fout. Ceux qui sont intéressés par le fond, ils iront lire la conf en entier et ils trouveront effectivement certaines réponses vachement intéressantes.
Luis Enrique, dans quelques instants, on en parle dans 100% PSG, la tribune, le podcast que vous suivez aussi sur YouTube en vidéo pour certains. L'homme de YouTube dans ce studio, c'est Romain Bédouc, bien évidemment.
Parce que c'est le jeune.
C'est le jeune. Il a créé.
D'ailleurs, on sort une vidéo. Le Club des 5, on sort une vidéo sur Luis Enrique dans la journée.
Ça va? Tu te fais ta pub aussi? Voilà. Est-ce que vous faites de la pub pour 100% PSG,
oui,
la tribune? Tribune.
Oui.
Ah, très bien.
J'en parle dedans.
C'est gentil.
Ah, c'est bien
gentil,
ça.
Câlin.
Moi, j'ai fait de la pub pour France Bleu Provence hier à la télé et France Bleu Loire-Océan.
Ouais. France Bleu Loire-Océan, t'as le droit. France Bleu Provence, je sais pas.
Surtout qu'il... Oui, bon, bref.
Fais-nous ton j'aime, s'il te plaît.
Mon j'aime. Alors, je vais essayer de pas empiéter sur le débat sur la rotation, mais j'aime que le match d'hier nous ait montré que le focus de la semaine, c'était la Coupe de France. Voilà. Je trouve que on a un peu banalisé les trophées nationaux sur les différentes années, la Ligue 1 tous les ans, mais là, mine de rien, la Coupe de France cette année, ça fait 3 ans qu'on l'a pas gagnée, enfin 2 ans, deux éditions où on était sortis en huitième de finale. Là, il y a un quart de finale contre Nice qui est une des bonnes équipes, même s'ils sont pas en forme, c'est une des bonnes équipes de notre Ligue 1. Il y aura une demi-finale potentielle contre Rennes au Parc aussi, où Rennes est une des bonnes équipes de 2024 en Ligue 1. Donc voilà, il faut se mettre focus sur la Coupe de France, il faut se servir de ces matchs-là pour mettre des équipes cohérentes, etc. Et amener un peu de piment dans les préparations de matchs de Ligue des Champions. On a la chance d'être encore en Ligue des Champions. On a ces matchs-là pour essayer de nous driver. Donc je suis hyper content que Luis Enrique ait fait ce focus-là, puisque les compositions de départ, on voit que théoriquement, les gros stars vont être titulaires mercredi alors qu'elles n'étaient pas dimanche.
C'est vrai que ça fait du bien quand même de voir cette équipe du Paris Saint-Germain. On n'a pas besoin pour l'instant de poser nos RTT au mois d'avril puisqu'on a des trucs à faire. Il y a la Ligue des Champions, il va peut-être se passer des choses avec la Coupe de France, bien évidemment. Je rappelle juste que la finale de la Coupe de France se jouera du côté de
Lille
pour les garçons et que les filles du Paris Saint-Germain se sont qualifiées hier contre vents et marées du côté
Combien il y a eu alors finalement?
Alors, il y a eu 3-3 et séance de tir au but derrière, match 23. De dingue. Et c'était un peu compliqué. Il a fallu vraiment, c'était pas simple, mais bravo aux filles du Paris Saint-Germain qui vont affronter Fleury pour une finale 100%
beau,
francilienne aussi. Ça, c'est quand même assez dingue.
De Fabrice Abriel, quand même.
Fabrice Abriel, ancien du Paris Saint-Germain. On aimerait juste que ça arrive peut-être un jour dans le paysage du football français chez les garçons. À quand une deuxième équipe construite et installée, je dis bien construite et installée, avec un stade digne de ce nom, parce que Charletti, bien sûr, est un mouroir. Ça, c'est autre chose. C'est un petit peu comme Brest. Oui, si tu veux. Bah non, mais ça me va. Ça me va très, très bien. Mais voilà, avoir un petit projet un peu construit. C'est avec
j'aime.
Toi. Tiens, c'est pour terminer, le j'aime, j'aime pas. J'aime.
Alors, moi, mon j'aime dans le match d'hier, le moment que j'ai le plus aimé, c'est le moment où Kylian est parti s'échauffer et où le Parc a rugi. Parce que je ne suis pas née de la dernière pluie, je connais très bien la situation entre Kylian et le club, donc je sais très bien qu'il a sa responsabilité, etc. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie que ça se passe bien à la fin de l'histoire. J'ai juste pas envie, en fait, qu'on se retrouve à siffler ce joueur. Et quand j'ai entendu en fait, dans ces moments-là, quand tu entends le Parc qui soutient un joueur, alors que par exemple sur les réseaux sociaux, il se fait détruire, eh ben, ça me rappelle que le Parc, ce n'est pas Twitter, et que Paris, ce n'est pas Twitter, et que la France, ce n'est pas Twitter, le monde, ce n'est pas Twitter. Et franchement, ça me fait plaisir. Parce que je me dis, les gens qui voient, ce ne sera pas le cas de tous les gens qui sont abonnés, il y en a qui ne seront pas d'accord, mais les gens qui voient Mbappé jouer au foot pour de vrai, au stade, ils ont peut-être une vision un peu différente de ceux qui passent leur temps à regarder les médias qui parlent de sport ou à écouter les radios qui parlent de sport et qui appuient toujours là où ça fait mal.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon cher Mathieu, toi, on rappelle, dans ton profil, tu as suivi Monaco et tu as vu le petit Kylian grandir du côté de Monaco. Tu as suivi pour Nice matin Kylian Mbappé. On sait qu'il est parti fâché, pas content, avec les supporters qui le sifflent, etc. Là, on a l'impression que sur la partie supporter, ça se passe un peu mieux pour se dire au revoir. J'ai cette unique impression. Est-ce que toi, tu sens ça aussi?
Pas du tout.
D'accord.
J'en étais sûr. De toute façon, il n'est jamais d'accord avec moi.
Non, mais je t'ai tendu le bâton pour me faire battre.
Non, mais bah, de toute façon, à Monaco, ils le détestent toujours globalement. Parce que, et puis là, ça les fait marrer parce qu'ils revivent ce qu'ils ont connu avant. C'est quelqu'un, en fait, qui fascine les enfants déjà. Il a une aura, c'est normal, les enfants, ils sont pas du tout les plus jeunes, ils maîtrisent pas un peu les trucs contractuels, les transferts, les paroles, enfin voilà, ils s'en foutent un peu de ça. Eux, ils voient un joueur de foot qui est exceptionnel pour leur âge, donc ils sont en admiration devant lui, et c'est tant mieux d'ailleurs. Il y a cette innocence, mais je pense que les gens qui aiment profondément le club, ils sont là en ce moment. J'ai l'impression qu'on est, moi le premier, tu vois, on est soulagé de se dire que ça va se terminer.
Bien sûr.
parce que c'est quelque chose qui est toxique au quotidien. Et le fait que son frère ne reste pas, oh, quelle étrange surprise. Et puis en plus, ça se trouve, il va aller à Madrid. Je trouve ça bien aussi, parce que ça veut dire vraiment, on va couper les plombs avec le clan Mbappé au sens très large. Et puis moi, c'est quelqu'un qui n'a jamais réussi à donner beaucoup de sincérité émotionnelle aux fans. Donc, il n'en a pas beaucoup reçu en retour. Et puis, tu sens qu'il y a toujours eu... C'est un clan qui a le bras long et qui a réussi, je pense, à avoir des discussions ou à avoir l'écoute au moins des personnes influentes au parc, je pense notamment dans les virages, afin qu'il y ait un accueil différent. Quand on se souvient ce qu'a eu Neymar, ce qu'a pu avoir Rabiot, ce qu'a pu avoir même Verratti par une partie infime ou Messi, là, je trouve qu'il est relativement épargné et ça fait partie aussi du fait que c'est un clan qui arrive aussi à créer des liens avec plein de gens pour contrôler un peu le storytelling. Mais ça, il va partir, j'ai du mal, sauf s'il ramène la Ligue des Champions, ça c'est autre chose, mais j'ai du mal à le voir partir avec une immense hola où tout le monde est content et on est ravis qu'il parte gratuit Real Madrid. Quoi.
Il faudra plutôt que ça soit avec que des enfants dans le Parc des Princes.
Ouais, c'est ça.
Pour synthétiser l'affaire. Juste non, pied à très court.
Non, mais
et
c'est
après,
juste une question pour Mathieu, parce que tout ce que tu dis, Mathieu, je suis complètement d'accord avec toi. Et, bon, je pense que ça sera difficile de trouver quelqu'un qui n'a pas une forme de soulagement que cette histoire toxique se termine, effectivement. Mais est-ce que, du coup, tu aurais préféré qu'il soit sifflé hier? Parce que moi, c'est juste ça, en fait, le truc. Je me dis, autant aller dans...
C'est toujours nul de...
Autant aller vers le bon côté du tu vois, parce que
il
si on...
240,
j'ai juste pas envie qu'on tombe dans le côté obscur où on se retrouve à le détester, à le siffler, etc. Bon, tu vois, fermons le truc et puis voilà, quoi.
Moi, dans mais de toute façon, on est un public bizarre. Tu regardes, la moitié des gens qu'on a adulés, ils sont partis salement, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Même Cavani, il est parti salement. Après, chacun a des raisons à chaque fois. Mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup de joueurs qu'on a su fêter dignement au départ, d'en avoir cinq, quoi, d'avoir Raí, Pauleta, peut-être Ibra, Di Maria. C'est même Silva. Bon, après, il y avait le Covid, c'était différent, mais ça ne s'est pas très bien terminé non plus. Donc, on est un public comme ça aussi. Ce n'est pas comme les Anglo-Saxons ou comme aux États-Unis. Tu vois, quand les mecs reviennent, ils ont des vidéos et tout. Là, je pense que si Kylian y revient, je ne suis pas sûr qu'il ait une standing ovation avec le mec du Real. On est un public comme ça, on donne beaucoup. Et quand c'est fini, on oublie peut-être tout ce qui a été bien et on est méchant, mais on est comme ça. Et moi, ça me dérange pas qu'on soit comme ça. En fait.
Et surtout, on a un public. Là, je parle du Parc des Princes, et notamment, ça se ressemble là où Kylian Mbappé va s'échauffer. On a un public de spectateurs, et donc des spectateurs qui sont pas forcément passionnés. Le parc, alors ça a changé parce qu'avant les spectateurs étaient argentins et brésiliens. Maintenant, on a des spectateurs français. Et ces spectateurs-là, quand ils voient Mbappé, ils sont contents que Mbappé, qui était sur le banc, ils viennent enfin jouer parce qu'ils ont payé pour ça.
Ouais, donc c'est... beaucoup de vrais amoureux du foot au parc.
Des vrais amoureux du foot, peut-être.
Oui.
Je sais pas. Des fans du Paris Saint-Germain avec le Paris Saint-Germain à la vie à la mort. Il y en a dans les virages, mais dans le reste du stade, je pense qu'il y en a pas non plus tant que ça. Il y a des suiveurs. Mais des suiveurs, c'est pas des fans qui vont se mettre mal
quand même.
Pour
oui, mais qui non, mais, sont dans attends, les tribunes
on en
latérales,
on en connaît
quoi.
Tous, mais sur les 48 000 personnes du Parc des Princes, on n'a pas 48 000 passionnés.
Petite anecdote, juste, vraiment, il va m'en vouloir que je le cite, mais un pote, moi, Pierre, qui ses enfants voulaient aller voir le match. On a essayé de regarder comment, à part la ticket place match, etc. Et on n'a pas réussi à trouver ce qu'il lui fallait, parce qu'il a une grande famille. Et il m'a envoyé un message en disant. Pardon, un gros mot, j'allais dire punaise. Heureusement que j'ai pas payé 400 ou 500 balles pour mes trois gamins, femme, enfant, voilà, toute la famille, pour pas voir Mbappé jouer.
Voilà, mais c'est très représentatif, mine de rien.
Bah c'est
représentatif de personnes qui seraient venues pour le spectacle de voir Mbappé, quoi. Et donc, c'est pas forcément des supporters du PSG.
Ah, c'est pas des abonnés, du coup.
Mais même parmi les abonnés, je veux pas. En fait, je pense pas qu'il faille généraliser en disant tous les abonnés sont comme ça ou tous les abonnés ne sont pas comme ça. Je pense qu'il y a de tout, mais que globalement, le Parc des Princes a jamais été un stade où intégralement on avait des joueurs, des fans passionnés et véritablement qui pouvaient le prendre au trip, au cœur de ce qui se passait.
Et on verra si ces gens iront à Châteaudun ou bien évidemment à Montigny-le-Bretonneux, puisque ce sera l'un de nos débats à la fin de ce podcast pour parler d'un possible déménagement. Du Parc des Princes de la part du Paris Saint-Germain. Les amis, on a fait notre tour du j'aime pas, on s'est fait notre petite demi-heure comme d'habitude pour faire le débriefing bien évidemment du match face à Reims.
Il y avait j'ai pas parlé de Navas.
Ouais, alors Pourquoi ? Vas-y, tu as le droit de mettre une balle de 30 secondes.
Parce que on critique souvent les erreurs que peut faire Donnarumma, mais c'est dans les non-arrêts que fait Navas qu'on se rend compte à quel point Donnarumma est essentiel. Voilà. Parce que l'erreur d'Hakimi, si Navas sort mieux, y a pas Hakimi, la balle ne vient pas vers lui. Et le but, je pense que Navas est un poil trop court. Et que ça veut dire que soit il part trop tard, soit il est trop court. Et Donnarumma, je pense, l'aurait arrêté.
Elle est improbable, cette gestion, de toute façon, Mathieu, ou de Navas. C'est improbable de le faire jouer comme ça, à Reims, 13h.
C'est sûr que c'est. Du coup, ça montre que Tenas, c'est le numéro 3, alors que moi, j'étais parti dans l'idée qu'il était numéro 2. Et puis, au moins, ça coupe l'herbe sous le pied quand on disait en début de saison. Est-ce que Keylor Navas va pas réussir à reprendre sa place de numéro 1 Il y a 6 mois, on était là quand même. Aujourd'hui, ça va être aussi un soulagement pour tout le monde qui s'en aille en fin de saison, parce qu'il a, faut pas oublier qu'il a un immense salaire et qu'il est un peu en vacances depuis 2 ans et que même s'il aura été exceptionnel sur ses 18 premiers mois, je pense qu'on... Tout le monde aura fait 2 années de trop pour pas grand-chose. Quoi.
Effectivement. Keylor Navas, qui était donc... il a pris sa petite... Une petite, il y avait Ugarte aussi, mais ça, j'en ai parlé tout à l'heure.
Je veux dire un petit truc, excuse-moi, sur Navas. Je trouve que quand on le voit, à chaque fois, j'ai ce feeling de c'est mauvais pour notre karma. On a vraiment, vraiment, vraiment abusé avec Navas d'une façon ou d'une autre. Et de le voir.
Un peu abusé, hein,
peut-être, mais de le voir là, c'était malaisant. Je l'ai trouvé malaisant, en fait. Son. Et à un moment, il y a Hakimi qui lui tend le brassard et lui fait le signe non, vas-y, garde-le. Enfin, franchement, son match, je l'ai trouvé malaisant et je trouve que j'ai peur qu'un jour on paye ce mauvais karma avec lui.
D'accord, très bien. Bon, c'est souligné. Merci. C'était la minute. On se porte l'œil avec Navas. Effectivement, on ne sait jamais. Ouais, il a mis un truc un peu mystique aussi où il a les bras en croix sur ses réseaux sociaux. Il est les bras en croix. Il met pas un commentaire juste sur Instagram. Il met juste cette photo-là, les bras en croix dans le match. Voilà, un peu très bizarre. En tout cas, Keylor Navas, ça, c'est fait. On n'a oublié personne sur cette rencontre. En tout cas, on va parler de cette rotation. Cette rotation, puisqu'on le rappelle, c'est le grand truc de Luis Enrique. J'ai 22 joueurs. Alors, vous me jugerez sur mes actes et vous verrez ce que je vais faire avec le groupe. Et vas-y, ma maman, à l'époque, disait Bouleg, vas-y, fais tourner. Elle qui était ardéchoise. c'est Bouleg. C'est Boulegué, ça veut dire tourner. Et ben, c'est Ibouleg, notre ami Luis Enrique. Il n'arrête pas. Ça fait 22 à 23 joueurs qui n'arrêtent pas de tourner. Et ce week-end, c'est vrai qu'il y a eu une grosse rotation. Mais finalement, la presse aujourd'hui a souligné quand même de savoir est-ce que c'est pas trop de rotation. Et donc, ma question est-ce que trop de rotation tue la rotation ? J'attaque avec toi, Mathieu. Est-ce que c'est finalement nocif pour ce Paris Saint-Germain qui, hier, est un peu poussif, est un peu maladroit avec certains joueurs, comme tu l'as souligné, avec un Carlos Soler. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi lui, il joue ? Est-ce que cette rotation et ce turnover permanent est finalement pas très est moins constructif que prévu?
Je sais pas, on est le 11 mars, on est en quart de finale de Ligue des Champions, quart de finale de Coupe de France, et on a 10 points d'avance en championnat.
Non, mais c'est un hasard.
On n'a pas de blessés majeurs, et à la Sociedad, j'ai pas eu l'impression qu'on tirait la langue. Donc à partir de là, moi je serais plutôt d'avis de dire que c'est plutôt bien géré tout ça.
Mais sauf que quand tu regardes l'attitude peut-être de certains joueurs qui, je sais pas, Kanginli sont complètement rôtis, ou lui aussi il est passé à travers nos...
Pas fait pour Kanginli, il est rôti, mais Kanginli ça rentrait en deuxième mi-temps face à la Real Sociedad, elle est très bonne.
Oui, mais face à titulaire.
Kanginli, s'il est rôti, c'est parce qu'il a fait 17 allers-retours avec la Corée du Sud, qu'ils ont une compétition internationale tous les 3 mois.
Il y en a eu d'autres depuis qu'il est arrivé au PSG.
Et d'ailleurs, il va continuer son marathon complètement improbable parce qu'il a été pris pour jouer la qualification pour la Coupe du Monde 2026 avec un petit match face à la Thaïlande. Il va encore faire quelques miles.
Je crois qu'ils veulent le faire faire les JO aussi.
Oui,
ils
veulent négocier. Le sélectionneur a annoncé qu'il allait négocier ça avec le PSG au mois de juillet. Je lui conseille un truc qu'il tente de négocier peut-être un tout petit peu avant. Ça peut être pas mal.
Mais il va y aller parce que vu qu'on a ouvert une boutique à Séoul et qu'on va faire une tournée en Corée et que ça va être notre plus grand profondeur de maillot.
C'est-à-dire que nous, on va faire une tournée en Corée quand Inly sera à Paris pour les Jeux. C'est marrant ça.
On va l'autoriser à tout faire. C'est un peu notre. Voilà, lui, c'est un peu. Il a le totem d'immunité. Il peut tout faire. Il est nul au foot, mais il peut tout faire.
En tout cas, il a fait une passe décisive hier. Il a fait deux passes D. Oui, deux assez, non, voilà.
Il est pas nul, mais
bah, il tient pas longtemps. Il a un niveau de batterie qui est assez faible, hein. 30 minutes.
Qui est proche
et après...
de Fabien Ruiz.
Et pan, bam, pim, poum, tout le monde est en train de ramasser.
Ça y est, Mathieu est réveillé.
C'est ça.
Non, mais c'est... franchement, le turnover, franchement, on a 10 points d'avance. C'est pas de notre faute si les autres ils avancent pas, hein. Je veux dire, l'important c'est d'être champion. Les derniers étaient champions avec un point. Donc là, tu as 10 points d'avance, tu vas pas cramer des joueurs. Alors que là, c'est quand même un match, un dimanche à 13h qui est calé entre un 8e finale de retour de Ligue des Champions et un quart de finale de Coupe de France. Après, oui, ça fait 3 matchs nuls de suite, c'est 3 matchs nuls complètement différents. En plus, hier, tu aurais pu gagner en seconde mi-temps. Moi, je vois rien d'inquiétant en fait. Enfin, je veux dire, tant que les autres ils avancent pas derrière, et bah, t'as ton matelas, tu continues. Hein.
Romain,
non, mais bien sûr, c'est, enfin, c'est une gestion de grand club, et c'est une gestion qui est similaire à ce que faisait Luis Enrique avant. Je me suis repris donc justement dans l'émission du Club des 5 qu'on a fait sur Luis Enrique. Il y a un de nos intervenants qui a rappelé une anecdote qui s'était passée.
Il dit qu'ils sont tes invités.
Elton Mokolo, il s'appelle. Et l'autre, c'est Yacine Amenet. Donc vous connaissez.
On le connaît.
Mais donc, il racontait une anecdote qui s'était passée quand Luis Enrique avait coaché son premier match de Ligue des Champions avec le Barça. C'était au Camp Nou, face à l'Apoel Nigosi. Et il avait fait 8 changements entre le match de Liga et le match de Ligue des Champions face à l'Apoel Nicosie. 8 changements, où dedans, donc ça fait finir 1-0, but de Gérard Piqué, nous dit. Et en conférence de presse, on lui dit, mais vous n'avez pas fait quand même beaucoup de changements. Il fait, vous avez raison, j'aurais pu en faire plus, j'aurais pu en faire 11. Voilà. mais oui, effectivement, on a un effectif qui...
On n'a pas l'habitude de ça, en fait.
On
n'a
pas l'habitude, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être géré comme un grand club. Je suis désolé, c'est tout. On avait l'habitude d'avoir des Christophe Galtier qui nous disaient, ah ben non, tous les matchs, ils sont importants. On ne sait jamais, en Ligue 1, c'est pas fait. Ben non, si.
Il fallait mener 3-0 pour faire rentrer les jeunes.
Ouais, l'année dernière, c'était pas fait. À ce stade, on n'avait pas 10 points d'avance.
C'était fait. Une fois qu'on a battu Lens à la mi-mars, c'était fini. C'était fini. On le savait, c'est juste qu'après on a eu des mauvais résultats, mais là ça, en plus ça avance pas. Le facteur physique, il y a pas de grosses blessures, je peux pas penser que c'est étranger au fait que les joueurs jouent moins. Le fait que quand on a tous eu dans l'année un joueur qui a eu une bonne période. On a eu Ugarte en début de saison, on a eu Barcola, maintenant c'est un peu moins bien, on a eu Vitinha dernièrement, on a eu Zaïre Emery en début de saison, là c'est un peu moins bien pour Warren.
Dembélé,
voilà. Enfin, on a tous eu des joueurs qui ont bien marché à un moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a, même Likangui en tout début de saison aussi, ça veut dire que quand on a un joueur qui est moins bien, comme Barcola l'est à la fin de la première mi-temps de la Real Sociedad, on peut faire rentrer un joueur qui a déjà des références cette saison. Donc c'est hyper intéressant. Donc, et sur des matchs qui sont avec une importance moindre, et c'est pour ça que je mettais en valeur le fait que c'était bien de faire le focus sur la Coupe de France, sur des matchs qui ont des importances moindres comme les matchs de Ligue 1 en ce moment, et bah c'est bien de tester des trucs. Alors il y a des trucs qui vont marcher, il y a des trucs qui vont pas marcher, mais au moins on les teste.
Pia.
Ouais, moi je voudrais souligner deux trucs. Le premier truc, c'est que faut quand même reconnaître que c'est pas très confortable mentalement pour les supporters. Parce que parfois, tu pourrais avoir envie de te dire, bon, je m'assois dans mon fauteuil, il va me faire un 11 logique, normal, classique, cohérent. Tu penses avoir Dembélé, Hakimi, machin, et puis t'as pas du tout ça. Et c'est vrai que parfois, mentalement, c'est un peu perturbant. Après, sur la rotation, je voudrais quand même souligner un truc, c'est que sur les trois lignes de l'équipe, on n'en est pas au même stade de la rotation. Pour moi, la seule ligne où il y a une vraie rotation qui est un choix pur et dur de l'entraîneur, c'est le milieu. Où effectivement, là, il y a une véritable rotation avec, voilà, ça tourne depuis le début de la saison. Sur la ligne d'attaque, ça a été complètement verrouillé pendant plusieurs semaines où, en fait, on avait toujours Mbappé, toujours Barcola à gauche, toujours Dembélé à droite. Donc, il y a vraiment un truc qui s'est verrouillé et qui vient tout juste de se déverrouiller. Donc là, je pense qu'on attaque à peine, ou on revient peut-être à une situation dans laquelle on était au début de la saison, mais on attaque à peine un moment où on n'est plus déverrouillé, on va plus voir Ramos, peut-être plus voir Colomagny, etc. Et même Kanginli en attaque, etc. Et puis sur la ligne de défense, c'est carrément autre chose. Là, c'est une rotation forcée où en fait, c'est là où on a tous les blessés. Et du coup, là, on est obligé de boucher les trous. On n'a pas assez de latéraux. On bricole. Donc finalement, si tu regardes en détail, il n'y a que vraiment au milieu de terrain où depuis le début de la saison, et comme par hasard, c'est la ligne où il n'y a pas de grands joueurs, on va dire.
À part Warren.
Ouais, mais, c'est pas encore un Verratti, même s'il a un énorme potentiel et qu'il est incroyable, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il y a pas les mêmes niveaux de rotation.
Romain boit tes paroles, mais j'ai l'impression qu'il a des choses à venir t'opposer dans tout ça.
Non, mais.
Et après, on vient te voir, mon Mathieu.
On est sur un coach qui veut sans cesse s'adapter dans les grandes échéances à l'adversaire. Et ben, pour t'adapter un maximum à l'adversaire, il faut que tu testes plein de manières de jouer, de voir les choses. Et le milieu de terrain, c'est une bonne illustration. Avoir des milieux de terrain où tu dois renforcer en mettant Dembélé, ça a été intéressant parce que le quatuor de milieu de terrain, on l'a vu sur toute la période décembre-janvier, où il y avait quatre milieux de terrain ensemble. Et donc, même si Dembélé était nouveau dans ce rôle-là, tous les autres, ils étaient plutôt habitués de devoir gérer un milieu avec quatre contre trois milieux de terrain adverses. Donc, forcément, ça se trouve, on va avoir une opposition en quart de finale de Ligue des Champions où le profil de Ramos sera peut-être intéressant. Mmh. Et ben Ramos, il va pas débarquer comme ça avec un rôle de numéro 9. Non, il aura des matchs de Ligue 1 où il a été en plus performant. Donc c'est bien pour les joueurs de voir que tout le monde peut jouer. En fait, c'est ça qui est bien. C'est comme ça que tu concernes un effectif.
Ça a l'air de fonctionner en tout cas sur les joueurs.
Et en plus, qui va râler dans l'effectif du Paris Saint-Germain si Mbappé est sur le banc? Qui va râler en disant moi je vais pas sur le banc maintenant. Il y a Mbappé qui est sur le banc. Donc t'as plein de choses qui sont hyper intéressantes dans cette rotation.
Est-ce que ça profite à certains joueurs, Mathieu? Et est-ce que cette rotation finalement sur une saison et sur cette saison avec tous ces tests qui sont faits, est-ce que ça profite à certains joueurs ou finalement ça fait pas baisser le niveau de certains joueurs?
Aujourd'hui t'as perdu qui? T'as perdu personne. Et comme l'a dit Romain, tous les joueurs sont plus ou moins aptes. Mmh. Et à chaque fois que t'as un joueur qui est moins bien, t'as un autre joueur qui prend le relais parce que c'est le principe des montagnes russes, c'est que chaque joueur a une période. Au final, moi je trouve que ça ressemble à une équipe au final. On est moins porté par une individualité. Et du coup, quand t'as un joueur, même si Mbappé il est extrêmement important puisque c'est quasiment le seul qui met des buts, mais même quand il est pas là, l'équipe elle est pas si famélique que ça. Et t'as fait des très bons matchs Marseille, Lille sans lui. Donc au final, je trouve ça bien parce que ça met une forme de cohérence et ça montre à tout le monde et malheureusement aussi à Carlos Soler, que tous les joueurs ils ont un rôle à jouer cette saison.
Non, mais y a bien.
Et au final, dès que t'as des blessures, t'as perdu personne. Voilà, Skriniar il est parti. T'as quand même perdu ton défenseur central titulaire, même s'il est bidon. Et au final, ça passe comme une lettre à la poste, parce que hop, Beraldo, il arrive, il peut jouer. Danilo, il reprend son rôle. Là, t'as pas Marquinhos non plus, qui est quand même ton capitaine, même s'il fait pas une bonne saison. C'est pas grave, personne panique, parce que tu sais que tout le monde est capable de jouer un rôle.
Mais on sent bien aussi que nous, ce qu'on ressent, c'est différent. C'est-à-dire que si le PSG, on va toucher du bois, mais si le PSG perd Mbappé sur blessure, par exemple, ça sera une vraie perte, c'est normal, tu perds Kylian Mbappé. Mais si je dois me mettre dans la situation par rapport au Bayern de l'an dernier quand Mbappé se blesse, on est dans un truc où on se disait comment on va faire, c'est impossible. Ouais. Quand il y avait Neymar qui se blessait, mais comment on va faire, c'est pas possible. Là, on n'est plus dans cette situation-là. Ça sera handicapant, c'est certain, parce que tu perds un très grand joueur dans ton équipe, mais tu peux trouver autrement des solutions. Et c'est d'ailleurs intéressant, pour revenir à l'aspect de rotation, le fait qu'il ait sorti Mbappé contre Rennes alors que tu étais mené 1-0, que tu devais aller chercher un résultat, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que tu as une équipe qui devait aller chercher un résultat et qui a dû trouver les moyens sans sa superstar, sans le fait de dire on donne la balle à Mbappé et vas-y, fais-nous la diff pour nous sauver.
En gros, il est en train de, avec cette rotation-là et de nous apprendre à la rotation finalement, il est en train de nous préparer à tous les scénarios possibles. Luis Enrique, en tant que coach,
c'est vraiment la raison pour laquelle, au bout de 3 nuls consécutifs en Ligue 1, personne n'a peur de rien. En fait, personne ne se dit ah non, on est dans une mauvaise passe, alors que sur une autre saison, tu fais 3 nuls d'affilée, c'est la catastrophe. Quoi. Là, c'est pas du tout le cas parce qu'on comprend bien que Luis Enrique, son objectif contre le Stade de Reims, évidemment, c'est toujours un peu de gagner quand même, mais c'était pas son objectif premier, c'était de préparer effectivement le match de Coupe de France et surtout la suite. Donc ça, c'est voilà. Sur les Et ce que tu viens de dire, Romain, qui est très juste sur le fait qu'on serait beaucoup moins en panique si Kylian se blessait, je pense qu'il y a quand même deux joueurs pour lesquels, dans cet effectif, s'ils se blessent, on est quand même moins fort. C'est Hakimi et Donnarumma.
Non, mais pour le coup, de fort, très loin. Moins fort, c'est certain. Moins fort, c'est
non,
certain.
Mais tu vois, où on serait, on se dirait, ah ouais, non, là, quand même, on est.
Le quart de finale, on va le jouer sans Hakimi.
Ouais. Oui, non, mais moins fort, c'est sûr. C'est logique. Forcément, il y a un moment, quand tu perds des joueurs de grande qualité, tu perds en qualité automatiquement. Mais là, tu peux trouver des solutions autres. Oui. Voilà. Tu vois, je te parlais de la solution.
Pour le coup, il y a un plus grand écart entre les solutions, je trouve.
Je te parlais de la solution tout à l'heure quand on parlait d'Hakimi. Ça se trouve, la solution avec Nuno Mendes qui va prendre le rôle d'Hakimi, mais de l'autre côté à gauche pour Mukiele. on a ça parce qu'on a une identité de jeu, parce qu'on a un truc, on voit l'idée du truc, quoi. On voit le bout et on voit comment ça peut être interchangé sur l'effectif.
En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos réactions sur la page YouTube, en étant d'accord avec nous ou pas d'accord, justement, et en donnant vos arguments. Et je vous le rappelle, c'était la question: est-ce que trop de rotation tue la rotation? Vous avez vu un panel de réponses de la part de nos débatteurs. Il va être temps pour nous de faire une première et la seule pause dans ce podcast, et ensuite on va parler de Warren Zaïre Emery, on va parler de la Ligue des Champions, parce qu'on a en ce moment Nasser Al-Khelaifi qui nous fait passer des messages à l'oreille pour nous dire: non, pas de grande attente, très tranquille, la Ligue des Champions cette saison on l'aborde à la cool. Et de l'autre côté, on va aussi parler du Parc des Princes, parce que la candidature de Châteaudun, 130 km de Paris, ça nous titille l'oreille. À tout de suite.
Vivez une saison 100% PSG sur France Bleu Paris.
Après un match nul frustrant face à Reims en championnat, on espère que le Paris Saint-Germain va montrer un visage plus offensif, plus réaliste et plus percutant en Coupe de France, en quart de finale, avec la réception de Nice pour une qualif pour les demi. PSG Nice, c'est à vivre ce mercredi dès 21h sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, 100% supporters du PSG.
100% PSG, la tribune.
Pierre Clément, Romain Bédouc et Mathieu Faure sont avec nous pour débattre de l'actualité du Paris Saint-Germain et échanger sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Vous nous écoutez en podcast, bien évidemment, sur le francebleu.fr, sur la plateforme de téléchargement de Radio France, et bien sûr sur YouTube désormais. Et merci de votre grande fidélité. Peu à peu, les chiffres grimpent grâce à vous. Les amis, on va se poser trois questions. La première, elle va tourner autour d'un garçon qui, c'était à peine hier pour moi, qui est désormais majeur. Il a 18 ans depuis vendredi, depuis le 8 mars. Warren Zaïre Emery peut s'engager avec le Paris Saint-Germain sur une période de 5 ans. On attend tous, bien évidemment, la fumée blanche qui va sortir de la factory. Je fais confiance à Jorge Mendes pour bien préparer le contrat du côté de Warren Zaïre Emery. Et Warren Zaïre Emery, qui hier a eu le droit des petits messages, bien sûr, le présent et le futur, c'est lui, de la part du club. Et surtout, pour moi, le vrai signe, c'est que quand un joueur a le droit à une voile, un drapeau spécialement pour lui, ça annonce quand même qui devient le patron au Paris Saint-Germain. Et donc, ma question, c'est de savoir si, pour vous, Warren Zaïre Emery peut-il être, en tout cas, la nouvelle figure de proue du projet PSG. Est-ce qu'il y a besoin d'un nouveau Neymar? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir Vinicius, d'avoir je ne sais plus qui? Ou est-ce que tu peux partir avec un garçon qui s'appelle Warren Zaïre Emery et qui devient un peu ton porte-drapeau au Paris Saint-Germain? Pierre Clément, sais que c'est un dossier qui te tient à cœur,
ouais,
le dossier
mais à
Warren Zaïre Emery.
Parce qu'on est tous complètement fans de lui. C'est vrai que le jour de ses 18 ans, honnêtement, j'ai ressenti un petit truc, encore une fois, de presque de maman, quoi. Avec ce petit, je sais pas, on a envie de l'aimer, quoi. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment dissocier deux choses. Il faut dissocier le lien au club de Warren, de nous, et du coup notre lien à Warren, et ce dont on a besoin sur le plan sportif. Pour moi, Warren, là, à ce stade, il n'est pas du tout la personne qui peut être la star de l'équipe, dans le sens, c'est pas
logique.
Lui. Évidemment, à son âge, alors pour le coup, ça peut vraiment le devenir, mais pas tout de suite, quoi. Donc, il ne faudrait surtout pas lui mettre sur les épaules le côté patron sportif de l'équipe. En revanche, il coche vraiment toutes les cases de celui qui va devenir, qui est déjà le chouchou des supporters, parce que tout simplement il est comme nous, il vient de la région, enfin il est beaucoup plus fort que nous au foot quand même, oui. Mais il a ce côté Mamadou Sakho, c'est-à-dire que c'est notre petit, quoi. On a envie qu'il réussisse, on est voilà, et en plus lui il a le côté exceptionnellement fort et précoce qui est impressionnant. Mais donc il y a deux univers. Il y a oui, il a un magnifique avenir au PSG, et non, il ne sera pas le maître à jouer de l'équipe la saison prochaine.
Mathieu, toi, le président du fan club du Craquito de Montreuil, bien évidemment, Warren Zaïre Emery, quand tu entends Pia, pour toi, ça peut pas être compatible d'avoir les deux, d'être la star terrain, en tout cas le patron sur le terrain, et la figure de proue aussi, pour mettre ce côté très francilien en avant?
Ah, faut surtout pas. C'est parce qu'on va le cramer. Tu sais, quand tu mets quand tu parles tout le temps d'un truc, au bout d'un moment tu vas en avoir marre. Il faut pas créer une overdose auprès de lui. Il faut le laisser tranquille. Déjà, je trouve qu'on le surexpose beaucoup. Il y a aussi une sorte de, je pense qu'aussi c'est lié au départ de Kylian, et on veut montrer c'est pas très grave si Kylian s'en va, regarde, on a déjà le successeur, il est chez nous, etc., etc. Et alors que c'est du flan, quoi, c'est un milieu de terrain de 18 ans en plus qui a pas un jeu ultra sexy, c'est un travailleur, c'est pas un joueur que je trouve qui doit, c'est pas lui qui doit porter le projet, et je suis même pas sûr qu'on ait besoin d'un joueur pour porter le projet. Ce qui est important, c'est d'avoir peut-être plutôt une équipe, un coach, une idée. On n'est pas obligé d'avoir un mec qui incarne à tout prix, quoi. Cette idée toujours d'incarner les choses, je sais pas pourquoi, c'est des trucs de communicants, ça. Donc là, qu'on lui foute la paix, qu'il continue son chemin. Moi, ça m'embêterait que ça soit lui la tête de gondole de l'année prochaine, quoi.
Mais c'est quand même un taulier du Paris Saint-Germain désormais, ce qui est assez fou quand même, parce qu'il a que 18 ans. 18 mais ans et 3 jours.
C'est un taulier faute de mieux au milieu de terrain. C'est parce qu'il n'y a pas de grand milieu de terrain au Paris Saint-Germain, à côté de lui.
Oui et non, parce que je trouve que son profil fait que même avec un taulier, il a sa place.
Mais on ne peut que lui céder d'avoir un taulier à côté de lui.
Mais ça va d'ailleurs venir après sur ce que disait, et ce que je trouve très intéressant dans ce que dit Matt, c'est que je trouve que son profil de joueur, alors il n'est pas fini, il a 18 ans, mais son profil de joueur ne correspond pas à celle d'une tête de gondole. Voilà, c'est un joueur hyper intéressant. Je pense que sur un milieu de terrain de classe mondiale, c'est pas le numéro 1. C'est un joueur de complément qui est essentiel, vraiment essentiel, hein, mais qui ne va pas prendre toute la lumière. Donc lui donner toute la lumière en plus à cet âge-là, il ne faut pas faire les erreurs de... Je prends l'exemple du Barça parce que c'est un super exemple. Quand Messi s'en va, il donne le numéro 10 direct à Ansu Fati. Et ça a fait en sorte qu'il y ait eu encore plus de pression sur Ansu Fati, qui a en plus eu des problèmes physiques qui ont été mal gérés par le Barça. C'est autre chose. Mais ça a fait que tu crées des attentes, Là, on le voit en ce moment, Warren, il est un peu moins bien. Ses matchs sont un peu moins convaincants. Et si ça lui tombe dessus tout de suite, on ne sait pas encore comment il peut réagir. Et le meilleur moyen de favoriser le fait de lui tomber dessus, c'est de le mettre en tête de gondole comme il est comme ça. Donc non, il faut pas que ça soit le cas. De toute façon, on peut pas dire à un jeune de 18 ans qui est sur sa deuxième voire troisième saison pro l'année prochaine, on peut pas lui dire vas-y, maintenant les clés elles sont à toi. Non,
surtout si
pas,
on
quoi.
Fait ça, on est des gros fragiles
on parle de responsabilité, oui, mais bien sûr. Dans les négociations, Warren, ça doit pas être un des plus gros salaires du Paris Saint-Germain. Pas encore.
Je suis d'accord.
Pas encore. Ouais. Il faut y aller crescendo. Il faut pas essayer de lui donner l'impression que le club est à lui, que maintenant c'est son club, etc.
Tu sais très bien qui est derrière tout ça.
Qui est derrière
Georges Mendes, il sent bien que le PSG, il y a un trou.
Je veux bien, mais il y a un moment où le Paris Saint-Germain doit réfléchir en tant que club. Donc, si le PSG réfléchit en tant que club, il y a des décisions à prendre pour ne pas mettre en difficulté. Mais en plus, ça mettrait en difficulté non seulement Warren, mais donc par extension le PSG, quoi.
Pia, tu voulais réagir sur ce que tu étais en train de dire à Romain.
J'estime que si le PSG est vraiment une institution comme il souhaite l'être, si tu as un joueur comme Warren qui arrive avec un super agent à ses côtés et que le super agent dit, puisque tous les grands clubs veulent Warren, il faut le payer à hauteur de ce que gagne un joueur qui a 15 ans d'expérience. J'estime que dans ces cas-là, le club doit dire « Ah, donc c'est pas vraiment ton projet de rester au Paris Saint-Germain,
visiblement. » Mais lui, il en a très envie, on le sait.
Mais oui, bien sûr, mais j'espère qu'il sera pas pris dans un truc où son agent va essayer d'extorquer de l'argent au Paris Saint-Germain, parce que je suis complètement d'accord avec Romain, il faut que ce soit gradué, même si là, on est d'accord que là, il est sur une phase où son salaire va être multiplié par 100, je sais pas combien, mais ça va être énorme, le changement de salaire, mais ça, c'est normal. Mais il faut pas que ce soit la star de l'équipe. Ce n'est pas le cas sur le plan sportif, ce n'est pas la star de l'équipe, et il faut pas que ça le devienne. Et je repense encore aux supporters qui voulaient quand même lui filer le numéro 6 de Verratti quand Verratti est parti, quoi.
Non, c'est 33, c'est bien.
Mais c'est parfait.
Pour cette saison, l'année prochaine, il peut le prendre. Hein.
Oui, mais pas juste après, tu vois. Il y avait vraiment un côté, c'était le prochain Verratti. Non, en fait, à 17 ans, t'es pas le prochain Verratti.
J'imagine Damien Dole, notre ami de Libération, en train d'écouter ce podcast et de faire ce malaise.
Alors que le 6, il doit être pour Vitinha.
C'est ça, ce malaise. Il est chez lui, tranquille, avec les enfants en train de discuter, puis il entend qu'il faut donner le 6 à Warren Zaïre-Emery.
C'est de la communication, confirmation. Juste, mais sur le match, de dimanche, en visuel de photo de joueur, il y est deux fois et il n'y a pas d'autres joueurs. C'est-à-dire qu'il y a une photo de lui sur de Warren sur l'échauffement. Genre c'est la tête de gondole de
sur quoi sur le l'échauffement du PSG
sur le Twitter du PSG sur le Twitter du PSG il y a la composition où c'est normalement la liste là. Ensuite il y a une photo de Warren, après il y a toutes les images qui sont en fonction du match, donc en fonction des événements qui se passent dans le match, donc là il y a pas mal de Gonçalo Ramos parce qu'il met deux buts, et fin de match 56e, il y a deux partout, il y a pas d'événement ouais. Photo de Warren, et fin de match, visuel final, photo de Warren. Donc non, c'est too much, quoi.
Juste, ok, j'ai compris pour le sportif, mais Mathieu, sur la partie...
Il a son drapeau aussi.
Oui, il a son drapeau, c'est ce que je
disais. Mais même ça,
tu m'écoutes,
on n'a jamais fait un drapeau sur des joueurs, on en a fait un cette saison pour Mbappé, un cette saison...
C'est la dernière, je crois, non ? Ça date pas de la saison dernière.
Ça part de la saison dernière, la
voile. Ok, très bien. Donc on en fait deux en un an, là, deux en un an, et pour Warren...
Juste, on peut communiquer dessus quand même, Mathieu, parce que c'est quand même une identité, c'est aussi quand même on est en train de nous vendre un projet francilien, jeune du cru, etc. Bah, Warren, il a le profil quand même.
Mais qui a vendu ce projet?
Je sais pas, moi.
On nous a vendu un projet banlieue avec des mecs qui venaient d'Evreux, donc bon, il y a un moment, je veux bien.
parce qu'on nous a vendu, ouais, le projet francilien, il n'y a que, Randal Kolo Muani qui est arrivé, en fait, comme mec de Paris, quoi. Sinon, tout le reste, c'est pas des mecs de Paris.
Lucas Hernandez.
Il y a Nordi Mukiele, quand même.
Oui, mais c'était il y a deux ans.
Oui, mais il est arrivé il y a deux ans.
Parce que Lucas Hernandez, il vient pas trop de Paris, et Evreux, c'est pas Paris.
Pour Nembele. Bah, Barcola, il vient pas de Paris non plus.
Barcola, il vient de.
Bon, d'accord, jeune français. Bon, ouais. Bah, ça représente quand même.
Mais t'as raison. Non, mais là où t'as raison, c'est que c'est pas toi qui l'as inventé.
C'est pas moi.
Nous a vendu un projet banlieue qui n'avait ni queue ni tête parce que il y a pas de banlieue dans le. Ou alors banlieue, mais pas banlieue parisienne.
Qu'on ait un projet avec un nom. Pourquoi faut absolument qu'on ait un projet avec un nom, identité? Je veux dire, on s'en fout. Je veux dire, City, on sait pas c'est quoi le nom de leur projet, on s'en cogne. Liverpool aussi.
Si, c'est le projet Guardiola.
Voilà, bah tu vois, bah là.
Projet Guardiola, projet club. Donc là, on a un projet Lucien
Riquet. Voilà, exactement. Faut rester avec Lucien Riquet. Donc tu lui donnes les joueurs qu'il veut, s'ils viennent de Madère, de Créteil-Soleil ou de Cagnes-sur-Mer, on s'en fout en fait. L'important c'est que ce soit des joueurs qui rentrent dans ce que lui a besoin. Et puis j'espère que c'était, on va pas faire la connerie de, il faut des noms. Il faut pas de noms en fait, il faut des joueurs qui soient polyvalents, qui correspondent un peu à ce que le coach veut en place. Franchement, s'il n'y a pas de noms, s'il n'y a pas de joueurs à 150 mètres c'était, bah, c'est pas grave. Faut pas faire le Barça après Neymar où ils ont dilapidé de l'argent, ils ont fait n'importe quoi et ils s'en mordent encore les doigts aujourd'hui.
Effectivement, et d'ailleurs, il y en a un qui s'est mordu les doigts, qui se mord les doigts actuellement en voyant partir Kylian Mbappé, c'est Nasser Al-Khelaïfi. Nasser Al-Khelaïfi, on va arrêter sur Warren Zaïre-Emery, mais puisqu'on parlait de ceux qui sont en train de nous vendre le projet Île-de-France, jeune génération, les jeunes espoirs français au Paris Saint-Germain et la jeunesse du PSG, après derrière, la jeunesse du PSG, on le souligne bien sûr face à la Real Sociedad, c'est la plus jeune équipe de Ligue des Champions, c'est le Paris Saint-Germain. Avec 23 ans et 6 mois de moyenne d'âge. Nasser Al-Khelaïfi qui hier, chez nos confrères de RMC, a tenu interview au micro de Marion Bartoli, l'ancienne joueuse de tennis.
Supportrice de l'OM.
Supportrice de l'OM, effectivement, et qui était du côté de Doha pour...
Tombeuse de Noël Le Graët.
C'est vrai, effectivement. Ouais, t'as vu à l'heure où si elle l'appelle, c'était facile comme piège. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a donc évoqué les ambitions du Paris Saint-Germain, tout ça. Et il l'a ressorti, comme nous vous l'avions aussi révélé sur France Bleu Paris, cette grande phrase. Le Paris Saint-Germain ne doit pas avoir de grandes attentes cette saison, cette année, en Champions League. Est-ce que on peut croire ce genre de discours de la part du PSG sur ce côté? Non mais maintenant, nous la Ligue des Champions, franchement, ça nous intéresse plus grand chose. Mathieu, je me retourne vers toi, est-ce que toi tu entends ce discours-là ou est-ce que finalement c'est une bonne chose que le président se calme un peu sur cette Ligue des Champions et dise bon allez, c'est pas grave, si on se fait éliminer en quart, c'est pas grave, le projet continue?
En tout cas, moi, ça fait bien longtemps que je mets de la distance entre les propos du président et ma réflexion personnelle. Hein, parce que souvent, c'est...
Éloigné.
J'essaie de pas trop m'intéresser à ce qu'il dit, parce que si tu reprends souvent les interviews à intervalles réguliers, il y a de quoi rigoler et tomber de ta chaise. Donc au final, il dit ce qu'il a envie de dire. Après, on est en quart de finale de Ligue des Champions, ça n'était plus arrivé depuis 2021. On est en quart de finale de Ligue des Champions avec le public, ça n'était plus arrivé depuis 2016. On a gagné un match à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est bien aussi. Donc, tu vois, Au final, là, ça va dépendre. C'est sûr que si tu prends le vainqueur de PSV Borussia Dortmund, bah, tu vas arriver à la demi-finale. Mais comme on a tous regardé d'un œil plus ou moins concentré ou pas City-Liverpool hier, et si tu prends City en quart, bah, c'est pas la même chose. Donc au final, oui, il y a encore des épouvantails en quart, mais il y a des équipes qui sont tout à fait abordables. Je veux dire, si tu prends le vainqueur de Barcelone-Naples aussi, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc maintenant, ça dépend de plein de choses. Hein, mais si tu sors en quart de finale et des champions contre Manchester City, bah, tu auras réussi ta saison.
Effectivement. Est-ce que vous l'entendez, vous, le discours du président Pia, ce qu'il vient nous dire en disant, alors est-ce que c'est Enrique qui lui a dit, bon, maintenant, vous calmez avec la Ligue des Champions et c'est moi qui gère, c'est moi le patron, mais...
Bah, moi, je trouve ça dommage qu'il ait pas dit ça en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2014, etc. Parce que c'était...
Merci de pas avoir fait toute la liste, ouais. Parce que ça pouvait être...
J'ai senti dans tes
ans.
Yeux.
Ça va être, je suis allé parti. Non, non. Ça va être long.
Franchement, je me suis dit, au niveau de la diction, je vais pas y arriver. Donc, voilà, donc bon, j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais, mais moi personnellement, je n'avais pas attendu cette phrase du président pour penser la même chose. Et j'ai passé tout le début de saison à dire dans mon émission qu'on était aussi, nous, les premiers, enfin, on faisait partie des responsables, nous, les supporters, à se dire en chaque début de saison,
attends,
cette fois c'est la
nous,
bonne.
C'est pas nous, Pierre, cette fois c'est la bonne. En 2011, en débarquant au Paris Saint-Germain, vient de
dire. Mais je sais, mais nous, on s'est laissé embarquer, Bruno.
Parce qu'à l'époque, on s'est laissé embarquer. À l'époque, on savait pas qu'il ne fallait absolument pas écouter Nasser Al-Khelaïfi.
Voilà.
Non, voilà.
Mais parce que, on va le dire. Pas le foot, quoi.
Vous entendez le vent, vous voyez dans quel sens il va. Et ben, souvent, il y a une phrase
après. Non, voilà, après, quand même, je trouve que pour une fois, ce qu'il dit est relativement en corrélation avec ce qu'on voit dans les faits.
Non, ce qu'il dit, c'est en corrélation avec ce qu'on voudrait penser. Et c'est toujours comme ça. Quand on reproche les attitudes, et ben le bling-bling, c'est fini. Voilà, on a une phrase de Nasser Al-Khelaïfi qui va ça. Quand on dit qu'on n'a pas assez de stars, ah bah Warren Zaïre-Emery, ça va devenir la tête de gondole. Et quand on a voilà une équipe qui avance avec un coach qui dit bah il faut dédramatiser les rendez-vous de Ligue des Champions, ah bah la Ligue des Champions c'est plus trop le... voilà, il faut pas écouter ce que dit Nasser Al-Khelaïfi. D'ailleurs on va encore rappeler que Nasser Al-Khelaïfi sort du bois. Non mais il sort du bois encore une fois quand il y a un succès. Voilà, il est.
Ça, c'est vrai.
C'est le pro
là,
de. Il était là en zone mixte après la Real Sociedad. Et alors qu'on ne l'a pas entendu de l'année. Là, il y a un succès, il vient monter le torse. C'est bon. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Ça se trouve, dans trois mois, il va dire son contraire. Donc, parlons.
Je ne
suis pas totalement d'accord. Pour le coup, je trouve que là. Bah, parce que.
Après, Mathieu, je vais te demander en juge de paix entre les deux, je te le dis. Hein.
Ouais, bon, bah, on sait déjà qui va gagner.
Vas-y, quand même, annonce tes arguments, on ne sait jamais.
Non, je trouve que pour une fois, il y a plus de cohérence dans le projet et je trouve que les recrutements tu recrutes un grand coach dans la perspective de cette fois réussir à rester avec lui pendant plusieurs saisons, ce qui est vraiment le problème pour moi numéro un du PSG, c'est le fait qu'on soit pas capable de garder un grand coach. Là, tu le recrutes en te disant, en donnant le sentiment que tu veux te projeter parce que tu recrutes des joueurs jeunes, tu vas chercher des joueurs jeunes dans d'autres championnats et franchement, il y a vraiment peu de déchets dans les recrutements, à part Cherendour et deux, trois autres, mais sinon, quand tu vois ce que fait Beraldo, ce que font Vitinha ou Garté, ça dépend des joueurs et tout, c'est vraiment pas mal quand même. Donc, je me dis, pour une fois, moi personnellement je me reconnais plus dans l'équipe. Alors certes il y en a qui viennent d'Evreux et je viens pas d'Evreux, mais je me reconnais plus dans l'équipe cette année que dans les équipes d'avant, donc pour moi il y a une petite corrélation quand même entre le discours et les faits.
J'arrive Matt, juste mais Romain encore, qui fait un signe court.
Mais parce que là encore ça Nasser Al-Khelaïfi est très fort pour dire ce qui correspond à la tendance du moment.
Ça fait 6 mois que c'est comme ça, donc
l'été dernier, il te dit, ah bah, Luis Enrique, il vient pour que le football, il soit spectaculaire, parce que ça faisait un an qu'on se faisait chier. En fait, il te dit toujours des trucs qui sont dans la tendance, et si la tendance change dans 2 mois, dans 2 mois, il aura un discours qui sera différent. Donc, ça veut dire que quand il parle.
Donc, pour toi, c'est pas lui qui imprime la tendance, du tout.
Ah non, mais pas du tout. Il s'adapte à la tendance. Ah bah non.
Mathieu.
Enfin, en tout cas, en termes de communication, je parle, en termes de communication.
À toi de trancher, Mathieu. Je te laisse le plaisir. Il y en a une qui pense que c'est plus pour elle.
Bah déjà, on attend toujours qu'il nous explique pourquoi il a puni Kylian Mbappé 15 jours cet été et puis qu'aujourd'hui c'est capitaine et qu'il va partir pour 0 euros.
Il a gagné 90 millions dans l'histoire.
Ouais. Bah, elle a rien gagné, c'est juste que tu les as pas sortis. Quoi. Donc, ouais. C'est sûr que moi, quand je sors pas de l'argent, je dis pas à ma femme, tiens, j'ai gagné 2000 euros. Hein.
Moi, c'est ce que ma copine me dit quand elle fait les soldes. Elle me dit, j'ai gagné, regarde, j'ai gagné tant.
Donc, après, moi, j'y crois pas au projet Luis Enrique 6-8 ans. Par contre, je pense que c'est le coach parfait pour faire cette transition, c'est-à-dire que c'est un coach qui est arrivé, en gros, dans l'effectif, il avait quasiment Messi, Neymar, Sergio Ramos, Mbappé, tout ce qui représentait, voilà, Verratti, tout ce qui représentait l'ancien air, et que quand il va partir, je le vois faire encore au moins une saison, et ben, t'auras plus personne, en gros, de la remontada, puisque Marquinhos devrait être le prochain à être liquidé, et que c'est le coach parfait pour remettre un peu l'équipe sur les rails, avec un projet collectif, avec une envie de jouer, avec une émergence de jeunes joueurs, de jeunes talents, et il aura régénéré l'équipe, le projet, tout ce qu'il y a autour. Voilà, ça c'est bien. Mais si, moi je suis comme Romain, par contre, je pense que le président, il pisse dans le sens du vent, comme ça il ne saille jamais la braguette. Hein.
Ça, c'est l'expression. Bon, franchement,
j'aime trop cette conclusion.
Mais ça va s'arrêter là-dessus. Il y a un autre débat qui arrive, mais voilà, là, c'est si. Voilà. Alors, ça rentre pas dans la boîte à soupe, mais voilà, mais c'est magnifique. Franchement, on la garde
limite,
on
lui donne la boîte à soupe, c'est même. On te donne les 8 euros.
Dernière question, les amis, avant de se dire au revoir, bien évidemment, dans ce podcast et dans cette émission. On va parler du Parc des Princes. On va parler quand même, parce qu'il se passe des choses autour du parc. Je pense que c'est un peu passé au travers, mais je vous rappelle quand même qu'il y a une petite dizaine de jours, dans le Financial Times, puisque Arctos, le nouvel l'actionnaire minoritaire du Paris Saint-Germain, une boîte américaine, hein, un groupement américain, le patron, le directeur général de cette boîte, qui s'est dit, tiens, on va pas se présenter aux médias français, mais on va plutôt parler aux médias anglais directement, qui connaissent bien le dossier, il est allé parler et il a dit cette petite phrase: il existe une forte possibilité de voir le PSG développer un nouveau stade moderne en banlieue. C'est pas moi qui le dis, c'est pas le PSG qui le dit, c'est son actionnaire, parce qu'en fait on comprend bien que derrière ça tire un petit peu les ficelles. C'est en cours et on y travaille avec eux. Il y a trop de demandes insatisfaites aujourd'hui et ce projet peut régler le problème. Je pense que cette phrase, elle est passée un peu au travers de tout le monde, parce qu'il y avait la Ligue des Champions au milieu, mais quand même, c'est annoncé. Et donc, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, on a des noms qui sortent, comme ça, Montigny le Bretonneux, qui s'est préposé, je peux même vous dire, et voilà, on va trahir un petit secret, mais je pense que Montigny le Bretonneux, le projet est quand même assez bien avancé, et que le PSG travaille très fort dessus depuis quelques temps. On a Gonesse qui est apparu, on a Aulnay Sous-Bois qui nous a fait une petite vidéo, et on a ce week-end Châteaudun en Eure-et-Loire. S'il y en a un qui peut aller sur Wikipédia pour nous faire une petite fiche, voilà,
tu y es. Donc, est-ce que c'est à côté de Nogent-le-Rotrou?
Voilà, c'est ça.
Alors, donc, c'est quand même dans le bassin parisien officiellement, hein, situé au sud-ouest du bassin parisien.
Très bien, 130 km de Paris.
Aux portes de la Beauce et à l'est du Perche.
Voilà, très bien, très très bien. Et donc.
Non, mais c'est entre Chartres et Orléans, quoi.
Voilà, mais donc c'est pour voilà. Non mais tu voilà.
Non mais on peut aller à Gérone si vous voulez. Hein.
Mathieu,
Gérone, c'est sympa. Hein.
Mathieu, est-ce que
bon, lâche-nous avec ton Gérone là.
Bah, c'est à une heure et demie, de Paris. C'est comme Châteaudun.
C'est ça, mec. Comme l'a dit un auditeur, un internaute sur voilà Twitter, en disant bah on a qu'à se barrer au Qatar aussi, faites des charters et puis on va tous voir les matchs là-bas. Plus on va essayer d'être plus sérieux, mais Châteaudun.
Comment tu veux être sérieux avec Châteaudun, sérieusement?
Non mais vous êtes plutôt Châteaudun, Montigny Bretonneux. C'était pour vous allumer un petit peu, mais. Il se passe des trucs quand même autour de ce stade, Mathieu, et ça sent pas bon.
Ah mais bon, il se passe rien, tu vois pas que c'est du flan tout ça?
Ah bon?
C'est mais bien sûr, il se passe rien, okay. ils vont rester au parc parce qu'ils ont rien, ils ont pas de plan B.
Ouais, moi je te le dis, Montigny le Bretonneux, je vais mettre
aussi,
une grosse pièce.
Au bout de ma rue à Cagnes-sur-Mer, il y a un cirque qui vient de partir, ils avaient mis un lama, il a enlevé toute l'herbe par terre, le terrain il est nickel. Donc je vais te faire une vidéo, je vais l'envoyer, et comme ça, il y a le tramway qui arrive en 2028, et comme ça tu pourras aller jouer là. Mais qu'est-ce que tu vas aller jouer à Châteaudun, Montigny le Bretonneux?
Non, pour moi là où je suis un peu d'accord avec Matt, sans être d'accord sur le lama.
Ah mais t'es un génie, Mathieu, c'est pas possible.
Là où je suis d'accord.
Tu veux repartir derrière ça?
Je pense qu'ils sont dans une.
Fais, quoi.
Je pense qu'ils sont dans une stratégie
Bruno
de.
Bruno qui pleure. Il pleure dans sa veste de costard.
Je pense qu'ils sont dans une stratégie de temporisation. Et que le but, c'est véritablement d'attendre qu'il y ait une mairie qui puisse potentiellement se changer en 2026. Et là, il y aura d'autres négos qui vont se refaire autour du Parc des Princes. Mais tout ce qui est en attendant, là, déjà Montigny, le Bretonneux, c'est loin, mais alors Châteaudun. Pff.
Alors Châteaudun, il propose carrément, juste pour info, hein, il propose.
Gratos.
Ouais, c'est gratos.
On donne
40 ouais. millions de terrains. Voilà, vas-y. Ouais. C'est cadeau, c'est la maison qui offre. Non, juste pour rappeler que, par contre, le PSG aussi a un œil sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Oui,
oui, oui, mais ça, par contre, ça peut, pour moi, ça peut être. Alors après, je ne sais pas si l'hippodrome de Saint-Cloud est complètement. Appartient complètement à France Gallo aussi, la mairie de Paris a pas son mot à dire aussi, parce que s'ils ont leur mot à dire pour le Parc des Princes, je pense qu'ils auraient aussi leur mot à dire pour l'hippodrome de Saint-Cloud. Mais en termes de faisabilité autre que le Parc des Princes, l'hippodrome de Saint-Cloud, pour moi, c'est la seule chose qui pourrait être plausible. Voilà.
Pia.
Mais par contre,
Mathieu.
Je dis pas que des conneries. Là, c'est une vraie info que je te dis, parce que même si je suis à loin, j'ai mes petites sources. Ce que je peux te dire, c'est que la mairie et le club, ils essayent de reprendre langue, comme on dit, mais ils savent pas trop comment. Donc là, parce qu'ils voient bien tous les deux, en fait, qu'ils sont dans une impasse, et que cette impasse, elle n'arrange personne. Et voilà, et en fait, là, il y a juste une histoire d'énorme égo entre Nasser et Anne Hidalgo, où en gros, les deux, ils veulent plus voir l'autre. Il y en a aucun des deux qui veut faire le premier pas vers l'autre. Sauf qu'à un moment donné, il y a des gens aussi intelligents autour d'eux, et ils se sont rendus compte qu'avec un peu de recul, 6-7 mois d'hystérie collective, bah ouais, aller jouer à Châteaudun ou à Montenu-Bretonneux, c'est un peu une idée de merde. Tiens, ça c'est pour la boîte à mots. Et que bah, finalement, ce qui serait bien, c'est qu'on s'assoit autour d'une table et qu'on voit comment on peut s'arranger, parce que l'idée de rester au parc, ça arrange tout le monde. Il faut juste qu'on trouve comment.
On va le souhaiter, bien évidemment. Je ne vais pas terminer là-dessus, parce que je vais entendre Pia.
Oui,
t'inquiète, détends-toi, Pia.
Non,
on va t'entendre.
C'est pas pour m'entendre, moi.
C'est une histoire de lama ?
Pas du tout. C'est une histoire d'homme. Non, j'ai envie qu'on entende Jean-Claude Blanc, en fait, parce que Jean-Claude Blanc, c'est vraiment exactement la personne qui manque, justement, pour que le club et la ville de Paris puissent reprendre langue, hein, parce que c'était lui qui avait géré tout ce dossier avant son départ à Ineos. Et il a parlé la semaine dernière dans la Tribune.
Ouais.
Le journal lui demande, le PSG est-il obligé de partir du parc pour se développer, ce qui est quand même la petite musique que le club veut qu'on gobe, que le PSG est obligé de partir du parc, ce qui est faux. Le PSG a un choix, soit partir, soit rester. Et donc, Jean-Claude Blanc a répondu dans un premier temps, c'est un dossier sensible que je connais très bien, donc je préfère ne pas répondre. Mmh. Et ensuite, il a ajouté, l'expérience du public commence au moment où il télécharge son billet sur son téléphone. Elle se poursuit à l'arrivée dans l'enceinte et se termine au retour chez soi. Donc, il faut être sûr que ça ne devienne pas une aventure d'y aller. Et puis, enfin, il a terminé en disant, la règle que je fixe toujours à mes équipes est celle-ci. On ne cherche pas comment remplir le stade pour un Juve Milan, mais pour la venue de Lecce un mercredi soir par 0 degré. Si le fan qui a acheté son billet ou un abonnement hésite parce qu'il a 30 minutes de transport, on risque le no-show et un siège vide, même payé, c'est un échec. Donc, autant dire que Jean-Claude Blanc, Châteaudun, c'est pas son délire. Ouais, et je pense qu'Aulnay-sous-Bois, c'est pareil. Et Montigny-Bretonneux, c'est pareil.
On est bien d'accord. Mais de toute façon, lui avait toujours en tête, c'était pas l'hippodrome de Saint-Cloud, il en avait un autre.
Auteuil.
Non, pas Auteuil non plus. Non, il en avait
Longchamp.
Un. Non plus.
Longchamp et Saint-Cloud, c'est pareil.
Ça va revenir. Non,
Maison Lafitte. Kent-sur-Mer.
Non, c'était pas Maison Lafitte. C'était pas Maison Lafitte, je sais pas.
Ah, peut-être Maison Lafitte.
Il en avait un en tête et il avait beaucoup travaillé avec France Gallo pour avoir une sortie de secours, parce que. C'était quelqu'un qui prévoyait Jean-Claude Blanc, et je pense très clairement qu'il n'a pas été forcément remplacé dans ses attributions et dans ce qu'il pouvait apporter au Paris Saint-Germain, puisqu'on rappelle quand même que tout ce qui s'est passé du côté de Poissy pour faire éclore et sortir de terre le centre d'entraînement du côté de Poissy, ben Jean-Claude Blanc y est pour beaucoup. D'ailleurs, je retiens toujours cette photo où Nasser Al-Khelaïfi, alors que Jean-Claude Blanc lui avait annoncé qu'il partait, Nasser Al-Khelaïfi a demandé à ce qu'il soit là présent sur les photos avec les joueurs, parce que effectivement c'était pour lui. Et c'est bien dommage qu'il ne soit pas là pour siffler un peu la fin de la récréation. On a bien compris qu'on n'avait pas envie d'aller à Châteaudun. On aime beaucoup Châteaudun, ça doit être très sympa.
Non, ça va, on ne sait même pas où c'est.
Petit week-end. Non, mais un petit week-end.
Juste pour raconter ce qui s'est passé en studio, comme on savait qu'il y aurait un sujet sur Châteaudun ou Montigny-Bretonneux, moi je suis allée sur Internet, sur Google, j'ai tapé Châteaudun. J'ai fait entrer et là j'ai vu Eure-et-Loir, donc j'ai dit non, bah du coup l'autre Châteaudun. Donc là j'ai tapé Châteaudun PSG et là je vois quoi, que c'est ce Châteaudun là quoi.
Et
Romain a eu la même scène 5 minutes après, pareil sur Google.
Ils ont,
Google. Ils ont 0,01% de chance, mais ils tentent leur chance. Après
ils font parler de leur ville. C'est aussi une façon de faire parler de la ville.
Puis
c'est malin.
De dire qu'il y a un terrain de disponible et qu'ils sont prêts à faire
gratos.
Des choses pour. Voilà, gratos.
Simplement, ils n'ont pas de club aux alentours, donc bon. Ils sont gentils. Hein,
non, mais ça fait un coup de pub.
Il y en a un, il est bougon. Là, tu n'en auras pas à Châteaudun.
Non, mais ça va.
J'imagine 130 allées, 130 retours pour aller voir
un match. Jamais de la vie. Le match à 13h pour aller à Châteaudun ? Faut partir à 9h le matin ?
Non, mais c'est mieux. C'est mieux d'avoir le match à 13h parce qu'à 20h, t'es pas rentré.
T'imagines, un match à 21h. Match à 21h pour aller à Châteaudun.
Personne n'imagine.
La sortie de Châteaudun. La sortie de Châteaudun, quand il y a 60 000 personnes qui vont devoir sortir en même temps.
Avec les
SNCF qui ne veut pas faire de train de nuit. Oh, putain, ça
avec les micro-trottoirs de riverains déjà agacés des supporters parisiens qui sont dans leur vie.
Il y a un Buffalo Grill.
Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Voilà. Hein, il faut donner deux autres marques, c'est ça, normalement quand on dit Buffalo
Grill, il faut
Hippopotamus,
Flunch. Et Courte-Paille.
Très bien, parfait. Parfait, ça fait une belle dédicace en plus à... C'était Sébastien Bazin, non, à l'époque, Colonie Capitale, qui avait des parts dans Courtepaille. Bon, allez, les amis, on arrête là-dessus, je ne sais plus. Ça part en banane. Ça... Quand on commence à déraper comme ça...
Non, mais du coup, il faut continuer.
Voilà, il est temps de siffler la fin de cette émission. Je vais vous expliquer pourquoi cette petite musique d'un groupe qui s'appelle Freaks Academy, c'est pour faire un grand coucou à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent à l'étranger, loin comme ça. Et on a un ami, on a un copain, alors je sais que c'est un copain de Matt Ford, mais peut-être aussi autour de la table, c'est Romain Delbello, ancien journaliste du côté de Canal+, et aussi de TF1. Et notre ami Romain, bah il a créé un groupe là-bas aux États-Unis. Ça s'appelle Freaks Academy. C'est son titre. Voilà, j'avais juste envie de lui faire un petit coucou.
Trop cool.
Il nous écoute. Quelquefois, il se pose pour les matchs du Paris Saint-Germain, mais aussi pour les podcasts comme ça. Il se pose du côté de Redondo Beach, du côté de Los Angeles. Il se pose, il se prend son sandwich et il s'écoute en bord de plage comme ça.
Ça va la vie, quoi. On ne dérange pas Romain Delbello, là.
Et donc, il s'est fait son groupe et donc je l'embrasse. J'avais juste envie de terminer comme ça. Je voulais remercier Pia, je voulais remercier Romain, je voulais remercier Matt. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. N'hésitez pas, les petites étoiles, les pouces, les commentaires sur YouTube. YouTube, en podcast, sur iTunes, sur tout ce que vous voulez, bien évidemment sur toutes les plateformes. Merci de votre fidélité. Et donc, ce que vous entendez, je vous rappelle, ça s'appelle Freaks Academy. Salut, ciao, bye bye. Il est temps de débrancher cette émission.